Et l'image du voleur est utilisée dans ce contexte-là pour parler du côté inattendu, soudain, imprévu du retour de Christ. Quelque chose de surprenant. Alors oui, le Seigneur va venir comme un voleur pour ceux qui ne l'attendent pas. Mais pour ceux qui se seront préparés, c'est-à-dire pour son épouse, pour les chrétiens réveillés, eh bien, ils ne seront pas surpris. Pour ceux qui languissent après son retour et qui discernent les signes de la fin des temps, eh bien, il n'y aura rien de surprenant. Donc, cette parole ne s'adresse pas à l'épouse, à son église réveillée. Cette parole s'adresse plutôt aux chrétiens qui se sont endormis. Qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de nous. Je poursuis. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Paix et sûreté. Quand les hommes diront paix et sûreté, cela renvoie à ce qu'a annoncé Daniel et ce qui est aussi décrit dans Apocalypse, à savoir la constitution d'une coalition mondiale qui va s'établir promettant la paix. Actuellement, on voit les nations, des nations qui se sont toujours opposées, on voit les nations eh bien, se rapprocher, signer des pactes, signer des traités promettant la paix. Et on n'a jamais été aussi proche d'une gouvernance mondiale. Et l'Apocalypse dit que l'Antéchrist sera issu de cette gouvernance mondiale. On peut rapidement prendre l'Apocalypse 13, qui parle justement de cet Antéchrist qui apparaîtra à la fin des temps. Il aura une grande autorité, il aura en lui un fort pouvoir de séduction, et toutes les nations se tourneront vers cet Antéchrist et le monde l'adorera. Apocalypse 13, juste le verset 7. Et il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Tout le monde l'adoreront, sauf les chrétiens réveillés. Par ailleurs, il est dit que l'Antéchrist séduira même les élus. Donc, c'est bien pour vous montrer que il nous faut veiller. Il nous faut veiller parce que nul n'est à l'abri de la séduction qui va s'étendre sur le monde entier. Les nations, effectivement, appellent de leurs vœux ce gouvernement mondial parce que justement, elles pensent que la paix leur sera garantie. C'est un terrible aveuglement de croire que qu'en établissant une personne sur les nations, eh bien, la paix puisse être garantie. Je poursuis au verset 4. Mais vous, frères, je suis en avance? Voilà, merci. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Nous sommes dans le monde, effectivement, mais nous ne sommes pas du monde, puisque nous dépendons du royaume de Dieu et de la justice de Dieu. Donc ça veut dire que même si les ténèbres nous oppressent et les ténèbres font tout pour nous attirer à elles, en nous incitant à commettre le péché, eh bien, en tant qu'enfants de Dieu, nous restons dans la lumière et nous résistons à ces ténèbres qui nous oppressent. Verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alors plus haut, il nous est dit qu'il nous fallait veiller et ne pas nous endormir. Et puis là, il nous est dit que si nous veillons ou que nous dormions, nous vivons ensemble pour lui. Alors il nous faut un petit éclairage pour comprendre cette parole. Alors je vous propose de prendre Matthieu 25. Il s'agit de la parabole des 10 vierges. Il y avait 5 vierges sages qui avaient prévu de l'huile pour leur lampe. Et il y avait 5 vierges folles qui avaient juste prévu de la lampe, mais qui avaient oublié de préparer l'huile. Alors, elles attendaient l'époux. Mais comme l'époux tardait à venir, eh bien, les vierges se sont endormies, les vierges sages comme les vierges folles. Elles s'étaient endormies, et au moment où l'époux est apparu, eh bien, elles se sont réveillées. Les vierges sages s'étaient réveillées. En fait, elles dormaient physiquement, mais leur âme était en éveil. Au fond, elles faisaient ce qui est décrit dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 5. « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. » Donc, il y a un sommeil naturel qui est nécessaire, hein, et il y a un sommeil spirituel qui est redoutable. Et c'est ce sommeil spirituel qui avait frappé les vierges folles. Elles n'avaient pas prévu assez d'huile. Quelqu'un a dit, lorsqu'on accepte le Seigneur, on lui donne notre cœur. Mais pour marcher avec lui, il faut aussi lui donner notre vie. Alors beaucoup de personnes ont donné leur cœur à Jésus, mais combien sont-ils à avoir aussi donné leur vie, livré leur vie ? Les vierges folles avaient certainement donné leur cœur, il y avait un attachement, mais elles n'avaient pas donné leur vie. L'huile représente ici cette vie livrée, cette vie consacrée, cette sanctification, cette relation personnelle avec Jésus. Et on extrait l'huile, vous savez, on utilise par exemple pour faire de l'huile d'olive, on passe les olives dans un pressoir et les olives sont complètement broyées. Et c'est de là qu'on extrait l'huile qui est précieuse. Et le pressoir, ça nous dit que nous devons passer aussi par le pressoir, cet endroit où notre volonté est compressée, où notre corps, où notre cœur, où tout ce qui constitue notre être est broyé pour qu'au final en ressorte le meilleur. Jésus est passé par le pressoir. Vous savez, quand il était au jardin de Gethsémané, juste avant d'être crucifié, eh bien, il a eu ses tentations, il a eu ses oppressions des ténèbres. Et Gethsémané, ça signifie pressoir. Et nous, Dieu permettra dans nos vies cet endroit où nous serons pressés pour que l'huile puisse être retirée de nos vies. L'huile, donc, c'est donc la consécration, la préparation, la sanctification. Et donc, quand les vierges folles viennent voir les sages en demandant de leur huile, ben, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, elles ne pouvaient pas leur donner leur préparation, leur consécration, leur relation avec le Seigneur. En fait, avec Jésus, c'est finalement chacun pour soi, chacun. Vous ne pouvez pas vous sanctifier pour moi. Et je ne peux pas le faire pour vous. Là, c'est chacun devant le Seigneur. Et les vierges folles pensaient que simplement une confession, un attachement à Jésus suffisait. mais elles avaient oublié de se préparer, de préparer leur huile. C'est important de comprendre que ce n'est pas parce que nous venons à l'église ou ce n'est pas parce que nous avons confessé une fois le Seigneur Jésus que nous serons sauvés. Certes, Dieu accorde son salut à celui qui se repent, mais Dieu nous demande de nous préparer et Dieu prépare son église. Et nous ne devons pas faire comme ces vierges folles, nous adonner à des distractions. Le plus important, c'est notre relation avec Jésus. Donc les vierges sages représentent les chrétiens qui ont tout donné à Dieu, leur cœur, leur vie, leurs projets, leurs aspirations. Et surtout, les vierges sages représentent des chrétiens qui se préparent au retour de Christ. En revanche, les vierges folles représentent donc les chrétiens qui ont un certain attachement, une certaine adhésion, une adhésion de cœur à Jésus, mais qui n'ont pas de relation personnelle avec le Christ. Donc les chrétiens qui ont un certain attachement, mais qui n'ont pas de relation et qui se perdent dans des distractions mondaines. Je poursuis avec le verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. C'est pourquoi il nous faut nous exhorter, frères et sœurs, à rester attachés à Jésus, à la parole de Dieu et être connectés au Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous faut nous exhorter comme moi j'essaye de le faire, Béatrice va essayer de le faire aussi. Elle a préparé un slam dans lequel, vous verrez, elle parle de ce déchirement parfois dans la vie du chrétien entre l'aspiration à vouloir suivre Jésus, mais aussi les difficultés, les peines qui parfois sont un obstacle à notre relation avec Dieu. Elle va parler de cette tension-là, mais elle va vous exhorter au travers de ce slam, sachant que malgré les combats, malgré les peines, malgré les souffrances, la promesse de Dieu est certaine. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je laisse la place.
Tes mains qui tiennent les miennes, ta voix qui soutient ma foi, quand la tempête se déchaîne, ton esprit habite en moi. Ton regard me rassure, tes pas guident mes choix, dans les moments un peu durs, ton esprit est avec moi. Mon cœur bat grâce au tien, mais mon cœur parfois me retient, la vie alors me déçoit et le monde est autour de moi. Et malgré tous mes efforts, le monde à nouveau s'offre à moi. Je ne suis pas assez fort. La tentation, à nouveau, est sur moi. Pourtant, j'avais ma vie en toi. Je suivais tes conseils, je connaissais ta voix. Ton esprit parlait à mon cœur. Je vivais chaque jour dans tes bras, chaque nuit sous ton toit. Pourtant, j'avais ta vie en moi. Je fixais mes yeux sur tes bontés, me les rappelant, comptant sur ta fidélité. Et maintenant, je ne te vois plus. Maintenant, je suis perdue et ton esprit en moi semble abattu. Alors j'ai crié à toi. Je n'avais plus de repères. Le mal était bien, le bien était loin. Au cœur de la tempête, j'avais perdu le père. Je ne voyais plus. Devant mes yeux, le vide était plein. Alors j'ai crié à toi. Le souvenir de ta voix et de ces instants près de toi semblait s'effacer au fur et à mesure. Plus je tombais, plus c'était dur de se rappeler la douceur de tes bras. Je ne croyais plus en rien, mais je savais que tu entendrais. Et au cœur de la tempête, je ne t'ai pas écouté. « Combien de fois je t'ai cherché, combien de temps j'ai appelé, je ne sais plus, combien mon cœur semblait perdu. Mais alors que les eaux m'entouraient, que la tempête se déchaînait, au plus profond de moi, je le savais. Je savais que tout n'était pas perdu, je savais que tu étais encore là, et j'entendais ton esprit crier en moi. Je savais que tout n'était pas perdu, je savais que tu étais encore là, et le vent se souvient encore du son de sa voix. Le vent se souvient, quand tu parles, il obéit, mais la maison sur le sable n'a pas de fondation. C'est pourquoi je m'appuierai sur la force de ton esprit, je me relèverai, j'obéirai, je tiendrai bon. Le vent se souvient, quand tu parles, il obéit, je me rappelle de tes larmes, de ton combat et de tes cris, je me rappelle de ta victoire et du don de ton esprit. C'est pourquoi, dans cette guerre, je me sais à l'abri. Alors j'ai crié à toi, je n'avais plus de repère, le mal était bien, le bien était loin. Au cœur de la tempête, j'avais perdu le père, je ne voyais plus, devant mes yeux, le vide était plein. Alors j'ai crié à toi. Le souvenir de ta voix et de ces instants près de toi semblait s'effacer au fur et à mesure. Plus je tombais, plus c'était dur de se rappeler la douceur de tes bras. Je ne croyais plus en rien, mais je savais que tu entendrais. Et au cœur de la tempête, tu continuais d'appeler. Je savais que devant toi, les océans s'écarteraient. À nouveau, tu poserais ton pied sur les eaux déchaînées de ma vie. Et tel un rocher, tu y placerais ton esprit. Alors, j'ai crié à toi. Le souvenir de ta voix et de ces instants près de toi m'aidait à tenir bon. Je résistais, j'espérais, je te parlais. S'il te plaît, ramène-moi à la maison. Je relevais la tête et tu te tenais là. Tu m'attendais, tu entendais ma voix et tu pleurais pour moi. Mon cœur bat grâce au tien, même si parfois mon cœur me retient, ton esprit crie mon nom et me ramène à la maison.
Super. Tellement encourageant. Dieu a mis des dons hein, dans chacun et c'est beau de voir que les personnes l'utilisent pour sa gloire. Malgré les déchirements, malgré tous ces oui et tous ces non qui nous traversent, malgré nos élans vers Dieu, mais aussi les choses qui nous retiennent, malgré nos combats et nos peines, si on garde la foi, une foi vivante, bouillante pour Jésus, Dieu finira toujours par nous ramener sur son sentier. Et n'oublions jamais que la destination finale, eh bien, c'est sa maison, il nous attend. Alors je poursuis au verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous exhorte. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Alors ayez de la considération pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Là, bien sûr, il nous parle de nos responsables dans l'Église que nous devons honorer et j'en parle assez librement, parce que je n'ai aucune responsabilité dans l'Église. Mais franchement, il faut reconnaître qu'on ne leur rend pas toujours la tâche facile, n'est-ce pas? On est dans une génération où on remet tout en cause, toujours en cause. On a besoin de remettre l'autorité en cause. Et on a un avis sur à peu près tout. On sait comment faire les choses et du coup, on essaye d'imposer cela à nos responsables. Et bien sûr, vous allez me dire, c'est tout à fait normal, on est français. Et en tant que français, on a besoin de contester, de remettre les choses en cause. Et la Bible nous dit, ayez pour eux de l'affection. Et l'affection, vous voyez, ça se montre. Ce n'est pas simplement en paroles. Et du coup, j'en profite pour remercier nos responsables, remercier Robert et son équipe pour le travail qu'ils font, souvent dans l'ombre, mais un travail qui a une portée éternelle. Alors, on ne voit pas tout, hein, mais nous devons honorer nos responsables. Je poursuis au verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Et je suis convaincu que si tous les chrétiens appliquaient ces commandements, d'être en paix avec tous et de faire le bien, de ne pas rendre le mal pour le mal, eh bien, si chaque chrétien pratiquait le bien, la justice, et prenait soin les uns des autres, déjà à l'extérieur, au-delà des murs, annoncer Jésus, que Jésus revient bientôt, mais aussi prendre soin des gens à l'intérieur, s'encourager à rester attaché à la parole de Dieu, eh bien, je suis convaincu que les gens afflueraient de toutes parts dans l'Église, seraient tellement surpris, tellement touchés par cet amour, qu'on n'aurait plus de place pour accueillir les gens. Mais le problème, c'est que parfois, on prêche un Jésus, mais nos vies montrent le contraire. Parfois, les ténèbres prennent place dans nos vies et se déchaînent, et on ne règle pas les choses, mais on annonce quand même Jésus. Alors les gens se disent, mais si c'est ça, Jésus, je n'en ai pas besoin, j'ai assez de problèmes comme ça. Et ils ont raison. Parce que la prédication doit d'abord commencer par les actes, avant la parole. L'exemple de nos vies qui vont faire que les gens seront interpellés et voudront en savoir plus. À ce moment-là, nous pouvons expliquer ce qui nous anime et ce qui influence notre vie. Mais déjà que les gens soient touchés par nos actes et par l'amour que nous manifestons. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. C'est un don de l'esprit, hein. Vous voyez, Galates parle des fruits de l'esprit, la joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la fidélité. Tout ça, ce sont les fruits de l'esprit que nous devons rechercher, d'autant que nous voyons arriver la fin. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la période de la fin s'accompagne d'une grande confusion dans l'Église. Et la Bible a annoncé que beaucoup de chrétiens se laisseront séduire par de faux prophètes, de faux docteurs, parce qu'ils voudront entendre non la vérité, mais ce qui leur font plaisir, ce qui leur fait plaisir. Et je voudrais terminer avec 2 Thessaloniciens 2, c'est juste en face de ce passage dans votre Bible, 2 Thessaloniciens, du verset 1 au verset 4, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, c'est-à-dire l'antéchrist, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc ce qui retient notre attention ici, c'est que l'avènement de notre Seigneur sera précédé de l'apostasie. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et nous entrons dans cette période d'apostasie. Le mot apostasie, en fait, ça signifie se retirer, s'éloigner. Donc, ça parle des chrétiens qui ont joui d'une certaine façon de la grâce de Dieu, qui ont connu les choses de Dieu, mais qui se sont éloignés, qui se sont refroidis, qui se sont éteints. Le seul moyen de réchapper, frères et sœurs, à cette apostasie, eh bien, c'est de marcher dans l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, nous dit Paul dans la lettre aux Thessaloniciens. N'éteignez pas l'esprit. Dans les derniers jours, et j'aurais fini avec ce passage dans Actes 2, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Alors il y aura deux courants, deux mouvements. L'apostasie, l'église apostate qui s'installera et qui attirera beaucoup, beaucoup de monde par la séduction, par le fait d'enseigner des choses que les gens veulent entendre et des choses qui nourrissent la chair. Et il n'est pas étonnant de voir que l'église actuellement qui remporte le plus de succès, en fait, c'est l'église qui promet la prospérité, l'Église, l'Évangile de prospérité. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc il y aura deux mouvements, l'Église apostate et aussi l'Église réveillée, le faible reste des chrétiens, qui se seront préparés comme les cinq vierges sages, qui se seront préparés et qui ne rechercheront pas les enseignements qu'ils veulent, mais qui seront attachés à la parole de Dieu et qui languissent après le retour de Jésus-Christ. Alors moi, ce matin, c'est cette invitation que je voulais vous adresser de la part du Seigneur. Jésus revient bientôt, alors êtes-vous prêts ? Alors si ce n'est pas le cas, eh bien, il est encore temps de se repentir. Parce que le Seigneur fait grâce et chaque jour est un jour de grâce jusqu'au moment où le Seigneur reviendra. Mais n'attendons pas. S'il y a encore des idoles dans nos vies, s'il y a encore des choses que nous mettons au premier plan, à la place de Dieu, il est temps de nous repentir. Il est temps d'examiner notre vie, de se demander ce qui compte le plus dans notre vie. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous l'as laissée pour que nous puissions marcher dans les temps difficiles, dans les temps ténébreux que nous vivons. Mais tu nous as donné ta parole comme une lampe à nos pieds pour que nous puissions te connaître, connaître ta volonté, discerner les signes et marcher fidèlement avec toi. La clé, en fait, de l'attachement à Jésus, c'est la fidélité. Et à l'église de Philadelphie, c'est l'église à laquelle tu ne donnes aucun reproche. C'est l'église qui est restée fidèle dans ses engagements. L'église qui a persévéré, malgré les ténèbres, malgré les difficultés, malgré la séduction. L'église de Philadelphie est celle qui a persévéré jusqu'au bout. Et pour cette église, eh bien, tu promets la vie éternelle. Seigneur, nous voulons être cette église. Nous voulons être ce peuple attaché à la parole, attaché au Saint-Esprit, et qui marchent par l'esprit et non pas par la chair. Alors, Père, je te prie pour notre communauté. Toi, tu connais les situations, tu connais les combats, tu connais chacun. Tu sais qui se tient sur la brèche. Tu connais les vierges folles et tu connais les vierges sages. Ma prière, c'est qu'il y ait un mouvement de l'esprit pour réveiller chacun, pour nous montrer, Seigneur, les signes. Donne-nous le discernement, Seigneur, pour que nous puissions comprendre qu'effectivement, les trompettes sont sur le point de retentir et que chacun s'examine, que chacun se place devant toi, que chacun réforme ce qui a besoin d'être réformé pour que nous puissions être trouvés justes et fidèles devant toi quand tu reviens. Merci Père de faire ce mouvement et d'abattre les idoles. Montre-nous s'il y a des choses qui ne te glorifient pas encore. Nous sommes prêts, Seigneur, à révolutionner notre vie pour être des serviteurs dans ton précieux nom Jésus. Amen.